Bon matin tout le monde. Okay. Là, on est rendu à la justice 25 à 40. Mais avant de voir cette partie-là, j'aimerais bien quand même faire un petit rappel de notre dernière séance, c'est-à-dire la dernière semaine. Il y a une désobéissance d'Israël. C'est la cinquième cycle de désobéissance. On voit bien aussi ça. Chapitre 6, verset 1. Il y a les conséquences de la désobéissance, 6, 2 à 5. Ennemis puissants, sans espérance de victoire. On a vu l'appel de Gédéon, 6, 11. On a vu aussi la façon dont Dieu regarde Gédéon, un vaillant homme, et la façon dont Gédéon pense de lui. J'aimerais bien quand même lire cette deux façons de voir, le 6, 12, 14 et le 6, 13, 15, c'est comme une sorte de genre de parallèle. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Ouais, 6, 12 et 14 et 6, 13 et 15.
12, 14, l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui a paru et lui dit, l'Éternel est avec toi, va avec vous. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les tous ces prodiges dont nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter dans le port d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madiens. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main du Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?»
Oui, merci. Donc, on voit bien cette façon de voir, cette optique de Dieu et l'optique d'un être humain qui est tout infini. Est-ce qu'on peut lire le verset 6, 25 à 30, s'il vous plaît?
Je lis la parole de Dieu. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept. Cet homme renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le bouclier sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu aurais abattu. Je lui ai prédit les hommes parmi ses serviteurs. Et ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il était quitté de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu, et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste. Sur l'autel qui avait été bâti, ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, et c'est à vous de prendre parti pour Baal. Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un feu, qu'il prenne lui-même sa cause.
Voilà.
Moi, je vois un parallèle entre Gédéon et Abraham.
Abraham, c'est-à-dire?
Dans le père d'Abraham, on dit Josué qu'il servait par l'Éternel, il servait les autres, tous les faux dieux. Dieu a choisi Abraham. Et je vois dans ce texte-là que c'est la même chose pour Gédéon. Son père était prophète des sacrifices, en fait. C'était idolâtre. Et Dieu a choisi cet homme-là, son père. Il a toutes ces gymnastiques qu'il a dû faire pour éviter la colère de son père quand il a abattu l'autel. Et que je trouve que c'est quand même un beau parallèle à la seule différence que. Les parents d'Abraham eurent un peu de Chaldée, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alors qu'on parle des fils d'Israël. Gédéon, Joas, c'est un Israélite.
Ok. Ouais.
En tout cas, moi, c'est ce que je vois là. Je vois ça.
Ok. C'est un parallèle entre Abraham, l'appel d'Abraham et l'appel de Gédéon. Ok. Et si je pousse
un... Tout ça, c'est la grâce, hein?
Ouais. Oui, 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 oui. Et si je pousse un peu la question sur l'histoire qu'on a déjà vue sur les Juifs, qu'est-ce qui caractérise cette séquence-là?
Ils ont vraiment abandonné l'Éternel.
Oui, mais avant ça, ils ont abandonné l'Éternel. On a déjà vu ça sur les quatre histoires de Ehud, qui aussi Déborah, on a déjà vu que ils ont abandonné l'Éternel pour faire des cultes au Baal. Mais là, il y a une différence. Oui, le sacrifice. En fait, là, avant cette séquence-là, Dieu va directement envoyer les Juifs pour tuer l'ennemi. Mais là, c'est différent. Là, Dieu a dit, va et détruis l'autel. C'est ça qui fait la différence de toute l'histoire. Là, c'est plus que Dieu va dire. Et ça, je pense que c'est pour ça que on a vraiment mis un peu d'emphase sur l'histoire de Gédéon. Parce que moi, je pense que c'est à 4 chapitres ou à 3 chapitres. Avec une autre conséquence après. Mais là, c'est que Dieu voulait faire ces deux, d'éliminer les sources de notre désobéissance. C'est pas juste détruire l'ennemi qui nous fait c'est vraiment là à quoi nous sommes rendus là, et c'est cette cause là que Dieu veut éliminer. Donc ça, c'est une réalisation ou mise en place du plan de Dieu.
Adorer Yahvé, être un Israélite, c'était par-dessus tout adopter un mode de vie spécifique, distinct, voire opposé au mode de vie ancestraux, qui était considéré dans tout le Proche-Orient, orientancien, comme inévitable à défaut d'être toujours désirable.
Ah, c'est le... En fait, c'est que... Là, c'est que... Il y a un mode de vie, là. Et c'est la source de cette mode de vie-là que Dieu veut débarrasser. Mais avant, c'est que... tuer l'ennemi, tuer le roi, tuer Dieu, puis tromper. Mais en fait, les astratés, les Baals sont toujours là, à côté.
Mais je pense que dans la communication de Dieu, c'était là que la peur. Une fois que vous aurez eu la victoire... C'est leur responsabilité de se débarrasser de ces ennemis-là. Qui disait se débarrasser de ces ennemis qui avaient les idoles allaient partir aussi avec cela. C'était la responsabilité du peuple pour voir qu'ils avaient compris que c'est Dieu qui les a délivrés. C'est sûr qu'on ne s'est jamais rendu là.
Oui. Ouais, oui, en fait, c'est ça le problème. Quand tu vas adorer Dieu pendant 40 ans, mais à quelques... dans une... je ne sais pas quand, ils vont dévier de cette vraie adoration, mais parce qu'ils ont... peut-être parce qu'ils voyaient encore les idoles parmi eux. Et donc, c'est que... il va dévier de cette bonne voie. Donc, Dieu agit en fonction de la cause du péché. Donc, les idoles du cœur. Ben, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'en premier commandement, là, il va nous dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut, dans le ciel, de ce qui est en bas, sur la terre, de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit de la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc c'est catégorique. Il ne faut pas, là où on est, là où les Israélites. Comment donc combattre les idoles là?
Mais ma question, quand tu regardes ça, là, comment est-ce qu'on peut espérer d'un homme comme Gédéon, qui a vécu dans cet environnement-là, son père, pourquoi son père est vraiment dans les idoles, dans le culte des idoles? Comment est-ce qu'on compare son attitude dans ce chapitre, dans cette portion-là du texte, avec ce qu'on a vu la dernière fois? Parce que une fois qu'il a rencontré le Seigneur, il a voulu lui offrir une offrande.
Donc, c'est-à-dire?
Lui, il a une connaissance du vrai Dieu, et il voulait l'adorer. Est-ce que je comprends? Je l'ai vu que Dieu s'était introduit à lui à travers l'homme, il est jamais, Dieu ne dit pas avec la force, etc. Là, la première chose qu'il a faite, il a fait un vin, etc., on a vu la semaine passée, et il voulait l'offrir comme une adoration, un sacrifice à l'Éternel. Alors que son père est dans les idoles, il y a une distinction quand même, l'influence de son père. Quand même, je pense que il se débat, il se défait quand même de l'influence de la production de même.
Mais il est désespéré quand même. Même si, d'après l'histoire qu'on a vue là, avant, il a dit si Dieu est avec nous. Donc, à mon avis, si tu crois en ton Dieu là, à la puissance de ton Dieu là, tu peux pas dire ça. Si Dieu est avec nous, il a fait des miracles, il est où en ce moment?
Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de la foi, on voit son obéissance.
Oui,
parce que, je pense qu'en revenant à la question d'Isaac, c'est vrai que le peuple a abandonné l'Éternel. Parce que quand tu suis plusieurs dieux à la fois, pour Dieu, tu l'as abandonné parce qu'il doit être en exclusivité. Mais il reste avec des brumes. Ils enseignent leurs enfants toujours dans les voies de l'Éternel en mélangeant. Donc ça, c'est abandonner l'Éternel. Donc Gédéon ne parle pas de rien, c'est pour ça qu'il parle de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ont toujours comme une culture de l'Éternel, mais qui est théorique, voilà. Ils ne pratiquent pas. Donc effectivement, il ne parle pas de rien, il sait que l'Éternel existe, et c'est pourquoi il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Parce qu'ils ont cette culture-là toujours dans la tête, mais ils servent encore notre Dieu. Mais on voit son obéissance parce que, même dans la peur, il aurait pu dire, moi, non. Il le fait de lui.
Personne ne comprend la conséquence de ce qu'il fait. Tout à fait. Je vois une belle foi dedans, moi.
Mais le problème, avant son appel, mais pendant son appel aussi, c'est l'immensité du problème face à lui. C'est ça, parce que lui, il ne trouve pas une solution de sa propre. Il est le petit, il n'a pas des hommes pour combattre. Mais on dit que c'est comme des sables, leurs ennemis. Et no way. Pour lui, c'est no way. Mais il demande encore.
Satan ou Nathan. Caché, dans la peur, ils vivaient dans la peur, c'est pas dans la peur que Dieu veut que le peuple vive. Fait que c'est sûr que Josué, dans la situation de l'appel de Dieu, c'était impossible, comme Moïse, je suis pas capable.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça que Dieu veut, quelqu'un qui est pas capable, mais c'est ça que Dieu appelle à pas regarder ce qu'il voit, pour regarder par la foi.
En fait, c'est lui qui va tout faire, l'ouvrage. C'est lui qui va faire l'ouvrage. Toi, tu es juste un pion, un instrument. Ouais. Dieu va faire en sorte de combattre les idoles d'abord. Les idoles d'abord. Mais en nous, là, combattre les idoles, c'est par la pratique de la religion yaviste qu'on peut en premier lieu le combattre. Vous savez l'appel, là? Je vous appelle de cette nation-là pour m'offrir. Et c'est ça ce que Dieu a dit pour les Israélites en Égypte. Va, il va offrir des sacrifices pour moi dans la montagne. En fait, c'est pour les éviter à être dans le débauche de toutes. Et c'est ça dans toute l'histoire. Quand il y a une sorte d'idolâtrie, là, peu importe la façon dont les idoles se présentent, il y a toujours une sorte de débauche charnelle dans tous les domaines. Donc, là, si ce n'est pas Yahvé, c'est un autre. Si ce n'est pas Dieu, c'est un autre. Si c'est tout ce qui est contraire à Dieu, c'est contraire à l'esprit.
Comme la Bible dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas servir Dieu ou maman.
Ah oui. On va arriver à ça après. Ah, oui. Tu es trop rapide, merci. Des fois, tu es comme moi, quand on joue au soccer, c'est que je cours. Donc, l'adoration, le culte, les réunions culturelles, peu importe les cas, les formes. Donc, toute déviation entraînera un culte vers les idoles et vers une dépravation totale de la société. Et ce qu'on a vu à travers les temps.
Pour appuyer sur une dépravation totale, là, parce qu'on est là avec un peuple d'Israël, et même quand on détruit l'idole, ils sont prêts à tuer la personne qui a dit. Oui, mais c'est vraiment qu'ils sont, ils se sont tellement qu'ils ne se rendent pas compte. Voilà. Ils sont prêts à tuer un humain, un des leurs, parce qu'il a détruit un idole.
Excuse, toi aussi tu cours. Mais on va. On va voir ça. Mais j'aimerais bien porter notre attention sur cette.
D'abord, on ne prend pas l'occasion de faire l'attention de les autres. Nous entendons. Et cela d'autant plus que vous voyez, le jour s'approche. Car si nous prêchons volontairement pour avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste que deux sacrifices pour les blessés. Mais le temps terrifiant du jugement de l'âme de Dieu, feu prêt à dévorer la promesse.
Amen. Moi, j'ai pris ce verset parce que il y a toujours cette déviation au long d'Israël, là, parce qu'il y a un abandon de la foi, et c'est ça ce qu'on trouve toujours. Mais ce qui me porte plutôt l'attention, c'est que sur le car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Et ça, même là, il ne s'agit pas d'un homme qui est sauvé, puis il n'est pas sauvé, c'est pas ça, mais c'est juste la connaissance. C'est pas la foi, mais la connaissance de la vérité. En vrai, il connaît la vérité, mais il ne veut pas savoir. C'est peut-être ça aussi dans l'histoire. Ouais. Pour ceux qui sont dans l'assemblée, ouais. Pour rendre un culte, c'est pas juste un culte, mais juste l'étude de la parole.
Mais ça reste quand même un verset qu'il faut interpréter beaucoup plus profondément de façon théologique, parce que
oui,
à partir de ça, on peut sortir la perte du salut, mm-hmm. et qui n'est pas, c'est pas partie de ce qu'on pense en tant que des
doigts.
Donc il faut bien comprendre. Qu'est-ce que le volontairement signifie ici? Parce que quoi qu'on dise, quand je mens, je ne mens pas involontairement, je mens volontairement.
C'est ça.
Donc il faut donner tout le sens du volontairement
à tous les angles.
Et ça sera un autre débat.
Annotez pas. Oui. Mais c'est pour un autre. Ok, oui. Un autre cours. Ah oh, oui. C'est pour l'assurance du salut. Donc, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Là, Dieu va donner clairement les instructions à suivre. destruction.
Je trouve ça très fort d'abattre, et il y a un sens culturel, je ne sais pas si tout le monde comprend, mais d'abattre les idoles de ton père, c'est une rébellion à ton père. C'est, je lis là, je le relis encore, puis ça résonne fort là.
Parce que tu vas à l'encontre de la pensée de la société.
Exactement. Mais familial aussi. C'est pas de la société, c'est de ta famille. Ça me fait résonner qu'est-ce que Jésus a dit. Ceux qui sont ma famille, c'est ceux qui suivent l'éternel. C'est fort, qu'est-ce que cette phrase est forte de sens là. Excusez-moi, je veux juste vous dire là, c'est culturellement dans ce temps-là, encore plus. Tes parents étaient vivants, tu ne peux pas faire ça. Et là, l'Éternel dit, va faire ça.
Va faire ça. Ok.
L'autre chose que je vois dans ce verset-là, il y a Abba, c'est-à-dire démonie et pâtie. Ouais. Et ça fait partie des éléments qu'on a appelés. Ça dit qu'il n'y a pas de vide à laisser. Ouais. Soit tu sers l'Éternel, soit tu sers Baal, tu sers autre chose. Là, Dieu dit, tu détruis le temple de Baal et tu veux bâtir le temple.
Ouais.
Tu quittes l'adoration des autres et tu te tournes vers moi. C'est fort.
C'est intéressant qu'il dit avec le même mot.
Est-ce qu'on peut lire le 1 Roi 18, 21 et Matthieu 6, 24?
Je vais prendre Matthieu 6, 24.
Ok.
Tu peux mettre en voie 18-21?
Oui.
Alors, Élie envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. C'est juste ça?
Non. 1 Roi 18-21?
Alors, Élie d'après, c'est Akan.
Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit. S'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand, lorsque les deux côtés, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne reposera. Mm-hmm.
Matthieu 6, 24, je veux dire la soirée intérieure. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la mort.
Là, j'ai déjà un écho de tout ça que Dieu est en train de.
Là, soit tu vas être là, ou tu es là. Il n'y a pas tant de sort comme. Et c'est pour ça qu'on va détruire les poteaux, les asérales, les pâles. Mais la présence de l'autel de Baal prouve que le père de Gédéon, Joas, offrait des sacrifices pour sa famille et sa ville. Donc, y compris pour Gédéon. Mais là, c'est qu'on va dire, hey, toi là, Gédéon, le petit, et c'est lui le petit dans sa famille qui va faire cet renversement de la famille. Et on va voir que ça a un prix fort.
À partir de ça, on voit que le choix de Gédéon n'est quand même pas fortuite.
Le
choix de Gédéon, Dieu fait un choix dans la famille même qui est en train de. Qui a le cœur du service de Baal. Parce que c'est pas seulement une idole familiale, mais c'est comme ça appartient à toute la ville. Donc, c'est un choix fort de cette famille.
Donc c'est une question de choix entre le vrai et la copie, et le faux et la fausse. Le vrai Dieu ou le faux Dieu? Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait, c'est normal, c'est logique, il craignait la maison de son père Et les gens de la ville, il ne fit pas de jour, il le fit de nuit. Donc, Nicodème, il est prêt à faire, mais quand même, moi je vais faire la nuit là. L'obéissance de Gédéon, mais cette obéissance a de prix. Quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît?
Alors les gens de la ville dirent à Joras, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le poteau d'Achéra qui était dessus.
C'est quoi le contraste dans tout ça? Mais c'est qui crie à l'Éternel?
Moi, je crois que j'en ai la vie.
Mais
la vie, les habitants de la ville et même d'autres Israélites.
Si on parle du principe que Joas avait une certaine autorité dans la ville, c'est pas lui qui va condamner son fils. C'est les gens à l'extérieur. Donc lui, il... Là, c'est vraiment de la spéculation de tout ce qu'on pense. Mais Joas ne fait rien. Il a comme approuvé, peut-être approuvé le geste, ou compris le geste de son fils, alors que c'est les habitants du restant de la ville qui veulent le tuer.
Mm-hmm. Mais pourquoi le faire tuer? Mais en fait, ce sont ces gens-là qui ont crié à l'Éternel quand ils sont...
Ils ne sont pas prêts à se débarrasser des mauvaises habitudes.
Pour oui, ils ne sont pas prêts, mais ils crient à l'Éternel d'être sauvé. Et l'Éternel envoie un sauveur et ils vont dire, on va tuer le sauveur. Ce n'est pas logique. Ah ben mais c'est ça le problème, ils ne se rendent pas compte que est-ce que c'est lui ou est-ce que...
Pas le petit.
Ils n'ont
pas vu le plan de Dieu.
Non. Ah ouais, c'est ça.
Ils ne sont pas mis.
C'est la même chose quand Jésus arrive. Le peuple d'Israël, ils sont sous domination romaine et tout ça, ils attendent le Messie.
C'est pas lui. En fait, même Hérode a dit, et voilà. Mais, non, c'est pas un roi là. Et là aussi, le problème, c'est que c'est aux hommes de défendre les dieux. Mais c'est qui est censé de nous défendre? C'est Dieu.
C'est pour ça que j'ai toujours la question, cette question-là aux musulmans. Pourquoi c'est eux qui doivent défendre Allah? C'est la question que j'ai tout le temps.
Parce qu'Allah est trop faible.
C'est lui qui doit défendre.
Non, mais il s'accroche à ça. Puis c'est vrai, tu as raison. Je me pose la question avec tout ce qui se passe dans le monde musulman. Comment ça se fait qu'ils tiennent encore à leur Dieu? Mais c'est ça. On grandit dans la religion. Ils ne veulent pas le laisser.
C'est ça.
Ça aurait dû être le contraire.
Et ça, c'est toute la sagesse de Joas. Et puis, c'est vraiment la chute du bal. Le courage, là, il a cassé.
Ah.
C'est une bonne fois.
Puis, Joas est courageux parce que ça dire des choses de même. Le bal, là,
oui, il l'adore.
Il a le désir, il s'en rend tout seul, il est capable de se défendre.
Et il s'en rend.
Est-ce qu'on peut lire les versets rapidement?
Ok, moi j'ai vu avec 1 Corinthiens, si vous voulez.
Merci.
Je vais avec Colossiens 3, 5.
Galates 5, 19.
Éphésiens 5, 5.
Non. Ok.
Galates 5, 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impudicité et la dissolution. Et or l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits, les divisions, les sectes, etc.
Mais ce que je vous ai écrit, 1 Corinthiens 11, mais ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, selon mon frère, est impudique ou pupille ou idolâtre, ou outrageux ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme.
Éphèse.
Oui. Et bien que chacun sache bien, car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
Colossiens 3:5. Faites donc mourir votre nature terrestre, les conduites, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie.
Qui est une idolâtrie. On voit tous les îlots. Cette idolâtrie dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, mais ça ne devrait pas avoir logiquement une emprise sur nous. Il ne peut pas. Donc, si Baal est un vrai Dieu, il doit se venger lui-même. Et on va voir. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et le transportèrent de Ebenezer à Ashdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils le firent entrer dans le temple de Dagon et ils la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens se levèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Mais le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains cigées, détachées sur le seuil, et il ne lui reste que le tronc. Wow. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entraient dans le temple de Dagon à Ashdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Mais là, c'est que les Philistins ne veulent plus entrer au seuil. Mais là, dans notre histoire, c'est les Israélites qui plaident pour Baal. C'est quoi ça? C'est quoi cette... Pourquoi ils font ça là? Et en plus, c'est eux qui ont vu la main de Dieu agir sur toute l'histoire. Et eux sont dit, oh, juste vite voir, oh, oh là là, on ne veut plus entrer là, là. Juste deux jours, hein. Ce n'est pas comme 40 ans en désert ou... Ils firent chercher et rassemblèrent toutes les ducs des Philistins. Ils dirent, revoyez l'arche du Dieu d'Israël et qu'elle retourne à sa place et qu'elle ne nous fasse pas mourir. Nous et notre peuple, car dans toute la ville, c'était une consternation mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et l'appel au secours de la ville montait jusqu'au ciel. Mais c'est Dieu même qui va faire l'affaire. Si...
Est-ce qu'après ça, il décide d'adorer des derniers?
Non.
C'est ça, non. La perdition. Tu es tellement...
Alors, spécialement l'homme,
mais tu continues toujours dans la même chose.
Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, ça c'est une autre parallèle de l'arche de Noé. Osa entendit la main vers l'arche de Dieu et l'a saisie parce que les bœufs avaient glissé. Ça c'est juste, c'est involontaire, hein. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Osa et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Osa mourut là près de l'arche de Dieu. Oui, c'est ça. Et c'est ça, et Joa, c'est vraiment la raison, lui. si Dieu est, si, si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même à sa cause, là.
Et quand tu dis ça, tu dis, est-ce qu'on se rend compte vraiment de la sainteté de Dieu? Mmh. Et quelle grâce de pouvoir se présenter devant lui.
Et il y avait donné l'exemple de la fin, quand l'arche arrive au pays d'Israël, et qu'une certaine d'Israël vont aller voir l'arche, et qu'il y a plein de monde qui meurt lorsqu'ils voient l'arche. Dieu a dû de sainteté par exemple. Et il y a donné le fait que cette l'arche n'est pas un pamboleur, non. Il est Dieu.
Mais oui, c'est. Mais l'Abbé, oui, ça c'est au contraire à ce que le. Là, au contraire à la pensée de Dieu, parce que c'est plus Dieu qui est au contrôle, mais c'est l'arche. Quand on a l'arche, on va l'amener l'arche. Là, on va gagner. Mais c'est ça, c'est devenu un idole. Même si c'est là.
Est-ce qu'on a cette disposition là de pouvoir voir Dieu? Pour y croire, disons. Je pense qu'on a cette disposition naturelle. Mais Dieu dit non. On aimerait voir Dieu pour l'adorer.
Voir physiquement. Pour y croire.
Puis Dieu dit non, par la foi. Je suis là, mes actions sont toutes là dans la nature, tu les vois.
C'est ça, tu les vois, oui.
Même avant ça, c'est que même sans la révélation de Dieu avec l'alliance, là, c'est que en Romains 2, là, on voit bien que la connaissance de Dieu se manifeste tout au long de l'histoire de la création, de la connaissance du bien et du mal, mais cela n'amène pas le genre.
Isaac, tu as raison, je pense qu'on peut voir Dieu, mais c'est, je pense que c'est essentiel de notre part,
oui.
Parce que les Israélites ont vu la manifestation mondiale en feu,
en
fumée, les trompettes. Ils ont entendu les 10 paroles de l'Éternel, ils sont tous morts dans le désert aussi. Hein. La sainteté de Dieu est tellement sainte qu'elle n'est pas capable. Et Dieu a dit à Moïse, ils font bien de ne pas vouloir que j'en parle directement. Mm-hmm. Ils font bien. C'est ça que Daniel a dit à Moïse. Donc, des fois, on ne réalise pas. Je pense qu'on ne réalise pas. Je pense qu'on va réaliser pendant l'éternité comment Dieu est grand et est saint. Je pense que même dans Jude 6, il ne réalise pas qu'il est éternel, qu'il est un Dieu jaloux.
Mais ceci étant dit, on voit toute la grâce de Dieu pour l'humanité en trouvant une façon de devenir dans l'humanité sans qu'on n'aille pas à mourir. Comprends-tu ce que je veux dire? Jésus-Christ, c'est Dieu, avec toute sa sainteté, il est là. On le voit, mais on ne le voit pas, pour l'avoir vu.
Mm-hmm.
Et ça, je pense que c'est une grâce que Dieu voulait se révéler. Il dit, je suis venu pour révéler le Père. Dieu se révèle dans son Fils Jésus-Christ. Et on est quand même, on a cette grâce-là de ne pas mourir en le voyant.
Et d'être habité. Est-ce qu'on peut lire le 6, 33 à 40, s'il vous plaît?
Tout Madian, Amalek et les Bédouins de l'Orient se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Suzraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et sonna du corps, et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici. Je vais mettre une toison de laine sur l'air. Si la rosée vient sur la toison seule et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Il en fut ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, en exprima la rosée de la toison, pleine une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus cette fois.
Que cette fois.
Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison reste seule sèche, et que la colère et que la rayon, que la rosée vienne sur tout le terrain. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison resta sèche, seule resta sèche, et la rosée vint sur tout le terrain.
Est-ce qu'après tout ce que Gideon avait vu avant, est-ce que c'est un... Ah non, mais ça encore. Gideon hésite de nouveau, mis en cause de la parole de Dieu. Gideon dit, si tu veux sauver Israël par ma main, mais en fait, c'est par sa main que Dieu va sauver Israël, comme tu l'as dit, et il comprenait bien que c'est Dieu qui l'a dit. Voici, je vais mettre une... Et ainsi, de suite. Mais il
tu
connaît...
Es bon,
tu es bon. Mais Gideon, j'ai tout fait pour toi. Pourquoi il a hésité deux fois? Baal n'est pas un vrai Dieu. Et c'est prouvé. Parce que s'il est un vrai Dieu, il était déjà mort. Parce que Baal va faire. Si c'est un vrai Dieu, il a les ressources nécessaires. Verset 35. Il est vêtu de l'Esprit de Dieu.
Ça
fait toute la différence.
Non, mais je trouve ça bon, moi, parce que ça m'encourage des choses en eux, parce que ça, dans ma vie, ça arrive, des choses comme ça. Puis, tu vois, Dieu, il répond quand même. Puis, c'est vraiment...
Mais j'aime cette phrase, là. Dieu répond quand même. Il n'est pas humain, il parle de toi. Tu n'as pas le bon choix, là, je vais changer. Tu es trop imprudent. Non, on voit comment Dieu est patient, comment il guide sa foi. Et ça... Je pense que c'est un caractère qu'on doit apprendre aussi.
Oui,
on n'est pas toujours patient envers les autres ou peut-être même envers nous-mêmes.
Mmh. Ouais.
Je questionne un peu sur la façon dont Gideon voit les choses jusqu'à présent. Est-ce que tout ce qu'il a vu là, est-ce que pour moi, à quel moment de ma vie, avec tout ce que Dieu m'a offert là, à quel moment de ma vie, je peux être comme un Gédéon qui hésite à tout le temps là, de ne pas appliquer ce que Dieu a dit dans nos cœurs? Et parce que...
Et
à la chair. C'est ça, on est toujours
un combat,
donc on est toujours
dedans. C'est peut-être juste parce qu'on parle de la
terre,
ça va être.
Ouais. Ça va
être. Les disciples ont fait 3 années avec le Seigneur, l'ont vécu sur tous les angles. Mais quand le danger approche, ils s'enfuient. Il y a une pièce biblique qui dit quand ils sont venus arrêter Jésus, il dit qu'ils cherchaient aucun, il a dit c'est moi, on dit tous tombèrent. La puissance même en face. Il coupe l'oreille, il remet sur place.
Il vit ça.
Mais il s'enfuit quand même.
Mais c'est vrai.
Non, c'est absolument ça. Ça veut dire que c'est un défi qui est là, sur lequel on va continuer à travailler jusqu'à ce
Mais en fait, on a tous les moyens. En fin de compte, on a tous les moyens de ne pas oser, de t'obéir à Dieu. Tout, de détruire tout ce qui est ennemi de la foi. Parce qu'on n'a pas le droit de dire, moi je suis petit là, je ne peux pas faire ça là.
Mais c'est quand même, si tu me permets, le verset 34 qui dit que
il était revêtu de l'Esprit de Dieu. J'ai dit, on fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, pour les honneurs du corps. Waouh. Et même à là, au verset 36 à 40, il hésite.
Malgré toutes les forces humaines qu'il a pu acquérir. Là, hein.
Oui, mais je il était revêtu de l'Esprit de Dieu.
Oui.
Ouais. C'est pas juste qu'il y avait des gens derrière lui, il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Il a quand même hésité. Donc je vais juste nous montrer comment que notre chair, là, nous, on a Emmanuel en nous.
On a la parole.
Je pense qu'il a peur sur tout. Il a vraiment peur.
Oui, mais c'est juste qu'il y a l'Esprit de Dieu revêtu sur lui.
Oui, ça, c'est.
Ça n'a pas à voir. Il fait. Dans ce livre, c'est pour nous rappeler que c'est un modèle Gédéon.
Dans ce cas-ci. Ouais. Mais il ne faut pas oublier à dire que Dieu a dit dans la faiblesse qu'on a puissance à conduire. Ah. Fait que c'est pour ça que même l'apôtre Paul, il a fallu qu'il l'abaisse pour que la puissance de Dieu soit manifestée.
Donc, il a cette faiblesse en nous, mais il y a aussi la puissance de Dieu.
Le maître, à l'approche de l'amour, mais cet esprit ne l'a pas quitté, il est toujours rempli, il est toujours réverti. La Bible dit que son âme est tout rempli, il est pris de tristesse. Il prie sagement, et même ses couples, mais toutefois ta volonté. Donc, on comprend toujours le défi qu'il y a à prendre, l'esprit. Et la chair. Ce qu'on va passer jusqu'à la fin. On a tous les moyens pour gagner. Ce n'est pas un combat perdu d'avance, mais il faut être conscient que ce défi va rester constamment. Il faut l'esprit pour rester
victorieux. Eh oui, c'est ça. La grâce infinie de Dieu. On est avantageux, même. Plus qu'avantageux avec cette grâce-là. Je ne trouve pas le mot de définir encore la grâce de Dieu dans nos vies, dans chacun de nous. Là. En conclusion, Dieu est toujours à notre écoute. Il est le seul vrai Dieu. Rendre un culte pour lui nous empêche dans la destruction. Il faut toujours prendre garde aux idoles. On n'a pas de parole aujourd'hui. Ouais, mais l'idole se présente de toute forme différente dans nos vies. Peut-être c'est l'étude.
Non, mais il ne faut pas oublier que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas les statues.
Mais en fait, c'est que moi je trouve que c'est un statut. Ça peut être un statut. Mais la façon dont on voit ça, c'est ça qui rend un leader. On va mettre la confiance en. Oui. Peut-être on a beaucoup d'argent, peut-être on a une belle voiture, peut-être, je ne sais pas. Tout se présente de différentes formes dans nos vies.
Même la Bible même peut devenir une idole. Il y en a qui prennent ça en forme mystique. Il va mettre ça sur sa poitrine, il va mettre ici, ça ne fera pas un autre sens.
Je me souviens bien de cette histoire-là. Quand ma mère va évangéliser la mère de mon père, parce que elle n'est pas vraiment du tout croyante, mais à un moment donné, ma mère va évangéliser, mais moi je le suis toujours avec elle quand elle c'est pas toujours, mais quand c'est l'occasion. Et elle se présente là. Et à un moment donné, ma grand-mère a apporté une Bible. Parce qu'elle est tannée d'écouter l'évangile. Là. Et là, elle dit là, cette Bible-là, c'est sous mon zéroyer. Toute ma vie, Alors, ma mère a dit, est-ce que tu as lu? Non, je n'ai pas lu, mais elle me protège. C'est ça. Ok.
Des gens qui mettent les livres sur les linteaux de la maison.
C'est là qu'on voit que le juge, c'est lui qui choisit son leader, c'est lui qui choisit pour raconter sa volonté. Puis c'est ça que moi, ce que je vois aussi, c'est que pour accomplir sa volonté aujourd'hui dans l'Église, Dieu a choisi des hommes, des diacres, des évêques pour diriger. Puis c'est à travers eux autres que Dieu va accomplir sa volonté, il va les utiliser. Mais ce n'est pas les hommes forts qu'il va utiliser, c'est des hommes faibles. Puis c'est ça qu'il faut apprendre, comme il a dit, va avec la force que tu as. Mais d'accepter l'appel que Dieu peut avoir dans ton cœur. Puis c'est sûr que il faut répondre à l'appel de Dieu quand Dieu appelle. Puis c'est sa volonté qui va s'accomplir, on le voit à travers les autres, que ce soit Moïse qui ne voulait pas croire, Jérémie, la même affaire. Et c'est à nous autres d'être à l'écoute. On n'est pas obligé, on n'est pas tous des leaders. Mais c'est de répondre à son appel. Et Dieu va faire de grandes choses à travers chacun de nous autres si on sera disponible à son écoute, à son obéissance. On fait toutes de grandes choses lorsqu'on fait sa volonté à travers chacun de notre appel personnel.
Amen.
Juste pour continuer ce que Bernard dit, Gédéon était le dernier de sa famille. Donc le moins crédible.
D'une petite famille.
Une petite famille. Le moins crédible.
Ouais,
petit, comme le roi David.
Okay. Même son père a oublié qu'il a encore un autre fils. tu as encore un, c'est qui? Il a oublié par son père. Jean-Luc, tu peux prier s'il vous plaît?